Stereo, stereo, calango.
Stereo, calango.
Oggi più che dice.
Stereo, 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 calango.
Calango. Oggi più che dice.
Vous êtes à l'écoute des programmes du studio Calango depuis Niamey. Il est 18h à Niamey. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. C'est l'heure du journal en français dans une présentation de Gunguma Mandantani. Voici les titres de cette édition. Le vice-champion en taekwondo aux Jeux Olympiques de Rio 2016, le Nigérien Abdulrazak Issoufou Maïga, est arrivé cet après-midi à Niamey. Les échos dans ce journal. Une mission de parlementaires de l'Assemblée nationale du Mali séjourne depuis lundi au Niger. Détails dans ce journal. Mise en exécution aujourd'hui des mesures annoncées hier par le gouverneur de la région de Zender pour améliorer la circulation. En partie magazine, vous aurez les explications sur la différence entre le kalangu et le dondon, deux instruments utilisés au Niger. Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver pour cette édition. À présent, le détail de tous ces titres. Nous débutons cette édition avec l'arrivée à Niamey du représentant du Niger en taekwondo aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Le vice-champion en taekwondo aux Jeux Olympiques de Rio 2016, le Nigérien Abdulrazak Issoufou Alvaga, est arrivé il y a quelques instants à Niamey. À sa descente d'avion, après les salutations par les membres du gouvernement et autres invités de marque, il est prévu une démonstration de taekwondo à l'aéroport Diori à Mani. Le cortège suivra son itinéraire pour se rendre au palais du 29 juillet où une cérémonie est organisée en l'honneur de celui qui a porté si brillamment les couleurs du Niger durant les Jeux Olympiques. À l'est du pays, dans la région de Diffa, la vie reprend son cours normal et l'aide humanitaire s'organise à Bosso après l'attaque sanglante perpétrée par Boko Haram en juin dernier. Selon le préfet de Bosso, le lieutenant Bourayma Saini, toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens dans la localité de Bosso. Nous l'écoutons.
S'il faut parler de la situation sécuritaire à Bosso, je vous dirais sans embâche que tout est calme, tout va bien, la population est revenue. Maintenant, on est au stade de développement. Qui dit développement dit que la sécurité et la paix sont déjà installées. Et je vous assure qu'aujourd'hui, Bosso, vous pouvez aller et revenir sans vous inquiéter. L'État a pris toutes les dispositions pour que la population soit sécurisée et elle est en train de travailler, notamment dans les domaines de récupération de terre, le reboisement, l'agriculture même du poivron qui est la vocation première là-bas. Les éleveurs sont sur leurs activités. Donc, je puis vous assurer que Bosso, aujourd'hui, ça va. Et la preuve, nous sommes dedans. Nous sommes à Bosso avec notre famille. Donc, s'il n'y avait pas la sécurité, nos familles ne seraient pas avec nous.
Comment s'organise l'aide humanitaire sur place à Bosso?
Je vous dis que déjà le gouvernement du Niger a pris un acte courageux en déclarant ce qu'on appelle prima facie. Ça veut dire que tout celui qui aura traversé la frontière a déjà le statut de réfugié. Contrairement à d'autres pays où vous voyez les gens avec les bagages sur les têtes, avec des files d'attente pour l'enregistrement.
Vous venez de suivre le préfet de Bosso, le lieutenant Bourayma Seydou. Les Nigériens qui ont opté pour la migration en Libye vivent dans des conditions à haut risque à cause de la situation d'insécurité qui prévaut dans le pays depuis la chute de Muammar Kadhafi. C'est le cas d'Ibrahim Salifou qui a séjourné difficilement dans la ville de Sabha en Libye. Témoignage poignant, Ibrahim n'a plus l'amour d'entreprendre un tel voyage dans l'avenir. Nous l'écoutons.
Vivre à Sabha, c'est très risqué. La violence est partout présente, ce qui fait que chaque jour, nous apprenons qu'un de nos frères nigériens est mort. Nous sommes obligés de nous accroupir pour éviter les balles. C'est ce que nous avons fait jusqu'à ce que nous décidions de quitter la ville. Tous ceux qui vont en Libye savent que la situation n'est pas réglisante. Même entre frères, il n'y a plus de solidarité. Sur le chemin du retour, les cadavres sont visibles un peu partout. La Libye est présentement secouée par de graves crises. Pour moi, il est hors de question de retourner là-bas. Je le déconseille également à ceux qui en auraient le projet.
C'était là le témoignage d'un migrant nigérien. Le déguerpissement des kiosques autour des marchés et devant les écoles ainsi que les panneaux publicitaires, un sujet d'actualité. Pour ce qui est des occupants de certaines places publiques, beaucoup ne comprennent pas qu'on vient les déguerpir après qu'ils aient payé tous les droits à la mairie. Que disent la loi et le règlement sur l'autorisation d'occuper le domaine public? Monsieur Adamoutine Nialzouma, maire du 3e arrondissement de Niamey, explique. Il est au micro de Moutari Mahamadou.
L'attribution des places, c'est-à-dire l'occupation provisoire du domaine public, se fait après avoir adressé une correspondance au maire dans laquelle le contribuable ou le citoyen qui désire occuper provisoirement un endroit, un terrain, il écrit en précisant son adresse, le quartier, la superficie et le type de commerce, c'est-à-dire vraiment le type d'activité qu'il va faire dans ce local qu'il va construire en matériaux précaire, car l'occupation du domaine public est provisoire et il est stipulé dans le contrat qui lie le contribuable à la municipalité. Une fois l'autorisation acquise, il est stipulé que cela ne constitue pas un titre et que le propriétaire ne doit ni céder, ni sous-louer, ni vendre cet espace. Vous savez, en tout cas selon les termes de notre contrat, il n'existe nulle part de dédommagement dans le terme de contrat. Ce qui a été dit, c'est que en cas d'urgence, la municipalité peut faire déguerpir l'occupant à tout moment.
Amadou Tiniel Zouma, maire du 3e arrondissement de Niamey. Notre correspondant nous informe que les mesures annoncées par le gouverneur des Indes, nous en parlions hier, ont été mises en exécution aujourd'hui. Tôt ce matin, une opération mixte des forces de défense et de sécurité s'est déroulée sur les différents carrefours de la ville. Des motos en situation irrégulière ou d'immatriculation étrangère ont été prises et amenées dans les locaux du commissariat de police ou du groupement d'intervention de la police. L'essence vendue sur le marché noir se vend à 750 francs, voire 800 francs CFA au lieu de 350 le litre avant la décision. Nous vous le disions hier, le gouverneur des Indes, Issa Moussa, a annoncé que les mesures avaient été prises pour lutter contre le transport clandestin d'essence, une activité à laquelle s'adonnent les jeunes qui partent acheter le carburant au Nigeria à moindre coût pour venir le revendre à Zender. Quelles sont les principales causes de ce phénomène? Sur ce point, notre correspondant Ali Keïta s'est entretenu avec Amadou Dankoré, acteur de la société civile de Zender. Voici sa réponse.
Si vous rappelez très bien, nous sommes une structure de la société civile qui a tant bataillé sur la question du prix de notre essence de la Souraz. Mais malheureusement, les autorités ont fait sourde oreille et nous ont fait comprendre que la raffinerie a été surfacturée. La construction même de la Souraz a été surfacturée et vraiment les autorités ne peuvent pas faire en sorte que de vendre l'essence à moindre prix afin que la population a sa provision. Mais c'est ça qui a poussé les gens donc à s'adonner à des activités illégales, notamment la fraude des hydrocarbures. Là, moi, je crois que voilà la première cause. La deuxième cause, il faut voir ces gens-là qui sont en train de faire ces activités. C'est des gens démunis qui n'ont aucun emploi. Et l'emploi, là, que ça leur donne vraiment de quoi les occuper et de quoi éviter certains vandalismes et certains banditismes dans la ville de Zender.
Amadou Dankoré, acteur de la société civile de Zender. Le Premier ministre a lancé le 4 mai dernier les travaux de construction de la digue de Goudel. Le coût, environ 1,9 milliard de francs CFA. Les travaux doivent durer 11 mois. Où en est-on de l'exécution des travaux? Boubacar Amadou, maire de l'arrondissement communal Niamey 1, répond à Larotou Ibrahim Gadou.
À la dernière réunion qui s'est passée la semaine passée au niveau donc du gouvernorat, c'était la digue qui est la plus avancée du point de vue donc de construction dans la ville de Niamey. Donc, ils étaient autour de un peu plus de 20%. Mais ils ont quand même évoqué un certain nombre de problèmes qui freinent actuellement la construction, c'est la saison des pluies. Vous savez qu'avec la saison des pluies, il y a de l'eau partout, les camions ne peuvent pas se déplacer avec aisance. Cette digue, appelée digue de Goudel, commence à Losungu pour finir donc traverser le village de Kosei et finir à Gabugura. Ça fait à peu près un peu plus de 1000 mètres linéaires. Pour le moment, on ne signale pas de problème par rapport à l'eau. C'est-à-dire l'eau est en train de monter. Aujourd'hui, la côte est à 510 cm et la côte d'alerte est de 530 cm. Donc nous pensons que si tout va bien, la hauteur qui est là pourra permettre donc d'empêcher aux eaux donc d'arriver dans les villages. Il y a aussi l'ancienne digue qui est là.
Boubacar Amadou, maire de l'arrondissement communal Niamey 1. Volet politique, une délégation malienne composée de 3 députés et 2 fonctionnaires de l'Assemblée nationale du Mali séjourne depuis lundi dernier au Niger. La mission est dirigée par Soumana Doumbia, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale du Mali. Quel est l'objectif de cette mission? Gunguma Mandantani s'est entretenu ce matin avec Zoumana Doumbia. Nous l'écoutons.
Nous avons voulu venir effectuer un voyage d'études en terre nigérienne pour que de part et d'autre s'enrichir de nos expériences respectives. Après avoir été reçu par le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Niger qui nous a rassuré de tout l'accompagnement par rapport à cette mission, nous avons eu une séance de travail avec la commission de développement rural, la commission des finances et la commission des lois qu'on appelle commission des affaires générales et institutionnelles du Niger, au cours desquelles séances il a été question non seulement du règlement intérieur, du règlement administratif et financier, mais tout court du travail parlementaire dans son ensemble. Nous partons très enrichis de l'expérience nigérienne et nous osons espérer aussi que le Niger aussi a appris certaines choses avec nous.
Vous venez d'écouter le chef de la mission des parlementaires maliens, Zoumana Doumbia, Studio Kalangou. Nous marquons une pause.
Studio Kalangou.
Les programmes de Studio Kalangou
à Niamey
sur la radio alternative
99.4 FM,
à Zender
sur la radio Choukra FM
105.5 FM,
à Dosso
sur la radio Fara
92 FM,
à Tawa
sur la radio Tambara
107 FM,
à Arlit
sur la radio Ikokan
95.1 FM,
à Agadez
sur la radio Nomade FM
101.9 FM,
à Tillabéri
sur la radio Tebouassi
97.5 FM,
à Maradi
sur la radio Garkwa
107 FM,
à Filengue
sur la radio Mouria Talata
95.1 FM,
à Difa
sur la radio Anfani
100 FM.
Studio Kalangou.
18h11, c'est l'heure du magazine. Dans la partie magazine d'aujourd'hui, nous parlerons des instruments de la musique traditionnelle nigérienne. Boubacar Garba di Talla, le conservateur du musée des instruments traditionnels, Maman Garba, situé au CFPM Taya, nous parle de la différence entre le kalangou et le dondon.
La différence entre kalangou et dondon, il y a trois aspects de nuances des effets de différence. Le premier, la hauteur. Entre le dondon et le kalangou, la hauteur du dondon est plus élevée par rapport à la hauteur du kalangou. Mais dans la forme et dans la conception, ils sont les mêmes. La deuxième des choses, c'est que le kalangou, il est accompagné toujours d'un autre petit kalangou qu'on appelle dans le jargon vernaculaire tankarbi. On joue les deux ensemble. Et le troisième aspect, c'est qu'il est ethnique. Le kalangou, il est d'origine ethnique Hausa. Par contre, le dondon est d'origine ethnique Sarma. Mais dès la forme, quand vous les voyez, c'est la même chose. Mais quelqu'un qui n'est pas du domaine technique professionnel ne peut pas faire la différence. On confond que le dondon là et le kalangou, ce sont les mêmes parce qu'ils ont la même forme. Et le quatrième aspect qui fait leur différence, souvent la fonction dans laquelle ils sont utilisés. Bien que tous les deux peuvent être utilisés dans la musique populaire et dans la musique aussi sacrée. Mais le kalangou, lui, il va au-delà de tout ça là. Il va même dans la musique socio-professionnelle. Parce que quand vous prenez Rumish, c'est un événement qu'ils font par an. Dans chaque région, les bouchers peuvent se regrouper et décréter d'une date qu'ils vont faire le Rumji. Ils le font et cette musique Rumji, jouée par les kalangou, cette musique-là, elle est jouée pour la circonstance seulement à travers les kalangou. Et elle n'est pas jouée n'importe comment. C'est juste un rite. Et la musique qu'ils vont jouer va toujours dans ce rythme-là. Maintenant, quand le kalangou quitte le truc-là, il peut aussi jouer d'autres airs dans la musique populaire, en dehors de cette musique socio-professionnelle. Le kalangou aussi a toujours accompagné la musique socio-professionnelle des coiffeurs, les Wanzamaï. Vous voyez, quand les Wanzamaï font leur événement-là, ils jouent, c'est un kalangouman qui suit le coiffeur, il joue avec un petit boubou qui fait éventer là, et fait toute sa magie technique socio-professionnelle.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, le forum avec Mokhtar Mohamadou.